Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Les prises de parole publiques des représentants de Shein sont rarissimes. L'empire chinois de l'ultra-fast fashion cultive le mystère en toutes choses. Ses chaînes de valeur, l'origine de ses matières, ses actionnaires et levées de fonds, son entrée potentielle à Wall Street en hiver 2023. Et pour cause, la connaissance étant le pouvoir, la révélation des piliers stratégiques représente un risque d'affaiblissement commercial et, dans le cas de la marque, d'attaque juridique pour des motifs qui vont de pratiques anticoncurrentielles aux fausses allégations promotionnelles ou environnementales. À l'affût du moindre indice qui révélerait la faille d'argile dans le colosse, je me frottais les mains à l'annonce d'une table ronde entre le directeur de la stratégie et des affaires publiques de Shein, Peter Pernaudet, Laurent Moisson, le cofondateur de l'association Force Française de l'Industrie, et Thomas Hurier, président de la marque française 1083. L'âpreté du réel a eu raison de ma naïveté. On s'attendait à un combat de titans, on reste bredouille et désarmé face au message marketing déclamé comme un robot par un représentant ultra-médiatraîné dont le discours est lisse. Jules Renard écrivait « C'est dans la contradiction que nous sommes féconds. Ici, nous ne repartons malheureusement avec rien de constructif. Car on peut opposer les bons et les méchants, structurer une confrontation honnête sur un argumentaire bilatéral, construit, rationnel, fondé sur des preuves, comme un nombre de références proposées chaque année, un bilan carbone, l'origine des matières, une lisibilité des chaînes de valeur. Mais on ne peut pas faire de prise sur une surface sans relief, celle d'un discours corrompu. » En dehors des vagues notions en faveur de l'implémentation de corners de seconde main dans les boutiques Forever 21, marque de fast fashion à l'imposant parc retail racheté par Shein, qui met un pied dans la vie réelle après avoir inondé le digital, en dehors de circuits de production évoqués au Brésil et en Turquie, rien ne nous permet d'espérer une once de bon sens et d'humanité dans les déclarations de Shein. Cela renforce la nécessité absolue de faire passer des lois qui restreignent drastiquement ces actions et le modèle plus général de l'ultra fast fashion. La discussion était modérée par Sophie Baquet, rédactrice en chef de Mind Retail. La qualité du son capté avec un téléphone n'est pas optimale et je vous prie de nous en excuser. Archiver ce débat et le partager nous semblait important. Bonne écoute!
Bienvenue à toutes et à tous de ce débat entre les forces françaises de l'industrie 1083 et Shein va commencer. Alors d'un côté, Covid-19, inflation, nouveaux usages, de nombreux chocs ont fragilisé l'industrie textile. De l'autre, l'ultra fast fashion et le géant chinois Shein, avec ses 30 milliards de dollars de CA en 2022, arrive en bulldozer. Mais la colère gronde, car acteurs et consommateurs dénoncent le modèle de la marque. Donc ce débat sera engagé entre Thomas Hurier, président et fondateur de 1083, une marque de vêtements éco-conçue et made in France. Voici Thomas, merci. Venez, on peut l'applaudir bien fort, merci. Durant ce débat, nous aurons aussi Laurent Moisson, qui est entrepreneur, président et cofondateur des Forces Françaises de l'Industrie. Merci beaucoup d'être avec nous. Et ils vont confronter leur point de vue face au directeur de la stratégie de Shein, Peter Day. Please join me on stage. Thank you very much. Ce débat est en français et en anglais. Nous avons des casques de traduction qui sont à l'entrée, si vous le désirez. This is going to be in English and French. If you do need translation, we do have headsets available for you with our fantastic translators. And you can give them a big round of applause because they are doing a fantastic job at translating every single word that is spoken on this stage. Et pour animer ce débat, Je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène la rédactrice en chef de Mind Retail, Sophie Bach, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Bonjour à tous. Je vous laisse aller prendre vos casques de traduction pour une intro rapide. Donc je me présente, Sophie Baquet, je suis la rédactrice en chef de la publication Mind Retail. Ravie d'animer cette table ronde. Merci Arnaud pour l'invitation. Cette table ronde a lieu parce qu'on est effectivement à la convergence de deux crises. Une crise du pouvoir d'achat d'abord. Selon le sondage IFOP qui est paru en juin, ce sondage nous dit que le 10 du mois, en fait, vous avez 31% des Français qui ont moins de 100 euros sur leur compte après avoir payé leurs dépenses obligatoires. Donc voilà, effectivement, tension d'inflation avec une inflation alimentaire qui reste sur des paliers très élevés en France et une crise climatique qui se traduit dans les modes de consommation, puisque Fox Intelligence nous disait à Paris Retail Week la mardi sur les e-shoppers français. Vous avez donc 35% des e-shoppers qui ont acheté des vêtements de seconde main l'année dernière, contre 22% des Britanniques. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est plus 10 points en un an. Donc voilà, des modes de consommation qui se transforment. Donc merci à nos trois invités. Laurent, donc vous êtes fondateur des Forces Françaises de l'Industrie, Thomas, fondateur de 1083. Tu vas nous raconter l'histoire de 1083, et Peter, donc merci à tous les trois d'être là cet après-midi. Je vous propose pour commencer un petit jeu qui va s'adresser à nos... enfin un jeu de ping-pong qui s'adresse à nos deux retailers, puisque donc on a Chine et 1083, pour que les auditeurs comprennent bien vos business models avec des chiffres clés. Donc c'est vraiment une première partie de la conférence qui va durer quelques minutes. Il faut vraiment répondre avec des chiffres pour que l'audience comprenne bien vos différents modèles. So Peter, I'm going to start with you. What were your annual revenue last year in 22? And do you plan a growth for this year?
First off, bonjour à tous. Je parlais en anglais, je suis désolé. Je parle français, pas très bien. To answer your question, we're very excited about our growth prospects as we continue to expand our marketplace model and we continue to be customer-led. Unfortunately, as a private company, I cannot get into details about our specific growth.
And for the last annual revenue?
We have seen very strong revenue growth continue across all of our markets, including in the European Union and France. We're very bullish about the future and believe that our platform, with its on-demand business model, it generates extremely low waste levels and allows us to meet our customers' price expectations while providing high-quality, safe products, will continue to resonate across Europe. Unfortunately, I cannot give you specific numbers as a private company.
What was communicated in the press was 16 billion in 21, just for our audience. Thomas, quel était votre dernier chiffre d'affaires annuel chez 1083?
Alors moi, heureusement, je vais pouvoir vous le dire, puisque heureusement, on est en France, et en France, on a publié ces chiffres d'entreprise, et donc nous sommes 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Soit 1000 fois moins, 1500 fois moins, 1083 fois moins, presque plus Chine.
Est-ce que tu pourrais parler en milliards, s'il te
plaît ? Ah non, alors 0,012 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà.
Ok. Quel était votre taux de retour en moyen chez 1083 ?
Alors, nous, on parle de taux de retour pour le site internet.
Oui.
En fait, il y a 18% des commandes qu'on envoie qui reviennent et qui sont soit échangées pour une autre taille ou un autre modèle, soit remboursées. La moitié d'entre elles, à peu près.
18%. And you, Peter, what is the average return rate at Shein?
Our return rates have remained relatively static and very low, because of the nature of our on-demand business model, because we respond to actual demand and can adjust to trends in real time and have systematized sizing across our platform, we've been able to manage returns very aggressively. Unfortunately, though, I can't get into specific details about our return rate today.
Okay. Can you tell us about your clients or not? How old are they? Are they mostly under 25, under 30? Who are they?
So our core client demographic is identified as Generation Z. So these are consumers between 18 and 25. We've also seen very strong growth in older cohorts, particularly in the last year as we've launched an upmarket line called Motif. These customers range in age from approximately 30 years old to around 45 years old. And as our marketplace model continues to expand in the United States, we're seeing growth in all age categories.
Okay, and you, Thomas?
Alors nous, le jean tout le monde emporte en fait, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les gens gauche, les gens droite, les hommes, les femmes. Donc on a une clientèle assez diversifiée en âge. Néanmoins, on ne fait pas de gamme enfants. Donc on commence adulte et le cœur de notre marché, c'est les Français entre 30 et 40, 45 ans.
Okay. In Mind Retail, we conducted a deep survey on unsold product in the mass market category. We see that the rate of unsold product is around 10% in value. What is the rate of unsold product at Shein?
Unsold inventory rates are in the extremely low single digits, well below industry average.
Under this figure?
Unfortunately, I can't give you a precise figure.
Again.
Pardon, heureusement que vous n'avez pas mis 83, parce que quand vous êtes une marque dont le nom c'est un chiffre, si on ne peut pas parler de chiffres à chaque fois, ça complique un peu la communication.
Absolument. Monsieur. I guess you won't answer, but I try again. How many items did you sell last year? What is the average basket at Shein? What is the average price per item sold?
So the average clothing item we sell is between $7 and $20, depending on the market. We operate in 150 countries, so there's wide variety in basket size and checkout size. But in the European Union and the United States, our two largest markets, it tends to be between $7 and $20.
Per item, okay.
And we normalize our pricing with dollars. So all of our accounting is in dollars.
Okay. And chez 1083?
Nos prix de vente moyens?
Le prix moyen, oui.
Alors pour 7 à 20 dollars, on a au mieux un morceau de tissu en coton bio tissé en France. Ça, c'est ce qu'on peut avoir pour le prix d'un vêtement Chine. On peut essayer de s'habiller avec, mais ça peut être un peu juste. Après, il y a à peu près 20 euros de prix de confection, pareil en France. Et après, il y a toute la partie distribution. Et donc, nos jeans, ils se trouvent entre 100 et 130 euros sur les modèles, avec la filature, la teinture, qui sont la plupart du temps faits en France, et ensuite la coupe, l'ennoblissement, le tissage et la confection qui sont pour le coup systématiquement faits en France. C'est pour ça qu'on est certifié Origine France Garantie.
Et vous étiez rentable l'année dernière?
Oui. En fait, on a 10 ans aujourd'hui, et on a tout le temps été rentable, sauf en 2019, où on a staffé un peu plus l'équipe. Donc on avait à peu près 5% de résultats en 2022.
Okay.
Et là, on aura certainement moins, puisque du coup, avec l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie, comme on ferait nos propres tissus dans nos tissages en France, mais que fabriquer un tissu coûte beaucoup d'électricité et de gaz, et bien du coup, on va certainement avoir une rentabilité moindre dans cette année.
Ok. And Peter, was Shein profitable last year?
Yes, Shein was profitable last year and has been profitable since its founding 11 years ago. So we're just 1 year older than your business.
Ok.
Non, je disais qu'on avait des points communs.
Mais oui, on va en trouver. C'est important aussi de comprendre vos outils de production. Thomas, pourquoi le nom 1083? Est-ce que tu peux nous expliquer ton modèle de production?
Oui, 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, de Menton au sud-est jusqu'à Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche est de fabriquer tous nos vêtements, nos baskets, nos t-shirts, nos jeans, à moins de 1083 km de chez vous, où vous habitez en France. Parce que le cœur du propos de 1083, c'est quand on est loin des conditions de fabrication des vêtements qu'on consomme, et bien en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe et mesurer les catastrophes qu'il y a derrière. Alors que quand on est prêt, en fait, bah ça change tout, ça nous engage, ça nous investit, et on se rend compte de ce qui se passe. Et donc au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique, les modèles de proximité sont beaucoup plus vertueux que les modèles lointains. Ou en fait, c'est pas tant qu'ils sont plus vertueux, c'est que ça nous rend plus vertueux. En gros, la distance, elle nous déresponsabilise, elle nous désengage. Et ce qui fait qu'il y a un effondrement d'immeubles au Bangladesh, le Rana Plaza, bah, en fait, ça nous émeut, mais deux minutes. Puis après, on zappe et on passe à une autre émotion. Alors que quand c'est presque chez nous, ça nous touche. Et donc, si la distance désengage et déresponsabilise, la proximité, elle engage. Et donc, nous, on fait tout pour stimuler cette proximité, pour que vous, en tant que consommateur, vous puissiez voir comment le jean est fabriqué, visiter nos usines, voir quelles sont les étapes de fabrication. Et c'est aussi très vertueux pour nos équipes, parce que quand elles voient le plaisir des clients avec qui elles échangent pour avoir un retour sur le jean qu'ils ont consommé et que c'est le fruit de leur travail, ben ça les réengage sur ces métiers manuels. Donc voilà pourquoi la proximité, c'est vraiment la cœur de la démarche de 1083, et voilà pourquoi 1083 s'appelle comme ça.
OK. And last question in this first part of a ping-pong game. Peter, so Shein is the third largest fashion retailer by sales worldwide, if I'm right. You don't have fully owned factories, but you work with subcontractors in three countries, Turkey, China, and Brazil. Does the bulk of European sales come from the Turkish manufacturing?
So our strategy going into 2024 and into 2025 is to try to further localize our operations, as you mentioned. I think our goal is to continue to expand our Turkish manufacturing base, but currently the bulk of the manufacturing remains in China.
Okay, so the Turkish manufacturing doesn't provide the European demand right now.
It doesn't meet European demand right now, but we are scaling it up, but it did just launch. Okay. In late 2022, and we've been scaling it up in 2023.
Okay. Okay, can you tell us the share of production that comes from China?
We don't have a precise figure, but it's far and away the majority, including shipments into the European Union.
Okay. Laurent, je te laisse, du coup, pour faire la transition avec notre deuxième partie. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire un petit peu ce que ça t'inspire?
Alors d'abord, je me présenterai juste après, mais ça m'inspire beaucoup de compassion, bah déjà pour toi, parce que tu n'as pas eu beaucoup de réponses à tes questions. Et pour vous également, Peter, parce que je trouve que c'est très compliqué d'être envoyé à une plénière où on ne peut pas répondre aux questions qui sont posées. Donc je ne vous envie pas, mais je partage parfois peut-être votre solitude. Donc voilà, en tout cas, je salue le professionnel. Vous avez très bien non répondu aux questions. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire, peut-être en transition, ben voilà, deux modèles très différents, qui sont nés, ça je ne savais pas, mais au même moment. Je ne sais pas ce que tu as foutu, Thomas. Mais...
D'exprès.
Là, il va falloir s'y mettre, hein, quand même. Mais donc, il y a quand même un modèle qui fait entre 20 et 30 milliards, on n'aura pas de chiffres. Un autre qui fait beaucoup, beaucoup moins. Et ensuite, une philosophie qui est différente. C'est qu'on voit que chez Thomas, il y a une transparence qui est au cœur du sujet. Et c'est pas... on se connaît un petit peu avec Thomas, donc, puisqu'il adhère à notre club d'entrepreneurs et d'investisseurs pour le Made in France, qui s'appelle les Forces Françaises de l'Industrie. Donc on se fréquente un peu, hein, c'est pas que j'ai deviné ça immédiatement. Mais on voit bien qu'il y a... un sens au cœur de son entreprise et que tout ce qui est fait est réfléchi pour correspondre à ce sens. Donc ça, c'est une démarche, j'allais dire, très actuelle, très moderne. Côté Shein, on est sur un modèle qui est moins transparent, où j'imagine on garde plus des secrets de fabrication, etc., comme ça arrive dans beaucoup d'entreprises, hein, il n'y a pas d'exception là-dessus. Mais c'est vrai que il y a une certaine opacité, et on l'a bien vu aussi dans les façons de répondre. Encore une fois, je respecte les hommes, mais je vois bien que les réponses ne sont pas les mêmes. Donc voilà ce que m'inspire ce modèle ping-pong. Dernier élément, évidemment, une industrialisation très poussée, avec, j'imagine, des coûts très bas, qui permettent de vendre très bas. Tu as commencé la table ronde en disant qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat. Bon, bah, évidemment, ça adresse complètement ces cibles-là, ou alors des jeunes, je vois qu'il y en a quelques-uns ici, qui, en rentrant des marches pour le climat, peuvent s'acheter un t-shirt made in China et le jeter juste après. Donc après, c'est bien, je pense qu'il y a de quoi faire.
Qu'est-ce que... C'est vrai que, en fait, la mondialisation de la mode ne date pas non plus de Chine. Enfin, là, ça fait 40 ans qu'on a une filière industrielle qui a été quasiment entièrement délocalisée. Quel était le pari pour les enseignes, leur équation économique derrière cette délocalisation, selon toi?
Alors, d'abord, il faut bien comprendre que ça n'a pas été un... C'est pas venu uniquement des marques et des enseignes. Cette histoire de délocalisation massive vers la Chine ou vers d'autres pays, ça a été une décision géopolitique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était à la fin de la guerre froide, il y avait encore un grand pays qui pouvait faire un peu peur, qui était communiste, et quand les portes ont commencé à s'ouvrir, il y a beaucoup de pays qui se sont dit, notamment les États-Unis, que bah, pour sortir ce pays de cette idéologie qui était l'ennemi, on va dire, de celle du monde libre à l'époque, eh bien, il fallait industrialiser, il fallait envoyer des entreprises, il fallait faire tout ça. Donc il y a eu des accords qui ont été passés avec la Chine, qui a ouvert son territoire, mis à disposition sa main-d'œuvre, qui était très miséreuse, donc très pauvre, et il y a eu un appel d'air avec un certain nombre de marques qui sont allées s'installer là-bas, qui ont délocalisé leur entreprise, enfin, leur unité de production, pas que dans le textile, hein, dans tous les métiers. Ça a été plus ou moins rapide en fonction du niveau de complexité technologique. Et au bout d'un moment, bah, celles qui ont décidé de rester, notamment dans le textile, il y a eu beaucoup de marques qui ont dit non, moi je veux rester produire en France, en Europe, etc. Elles ont été sous une pression concurrentielle telle que soit il fallait qu'elles se mettent dans des niches, pas trop concurrencées, soit il fallait qu'elles délocalisent également, soit elles mourraient. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est peut-être 40 dernières années. Et donc, c'est tout un modèle qui a été réfléchi pour faire de la Chine l'atelier du monde. Et on s'est dit, bah, c'est super, ça les fera sortir du communisme. Ça, ça a foiré, hein, on peut dire. Et deuxièmement, on va garder toute la valeur ajoutée, c'est-à-dire la conception, le marketing, le design, etc., en Europe. Alors, d'abord, moi, ça me pose un problème, c'est que je vois pas pourquoi on estimerait que les métiers que je viens de citer seraient à plus grande valeur ajoutée que la production elle-même. Les métiers manuels sont des métiers à valeur ajoutée. Et on voit d'ailleurs que quand on n'en a plus, ben, on a des gros problèmes pour réindustrialiser. Et deuxièmement, on voit que finalement, là aussi, on s'est complètement planté parce que la séparation des tâches à l'échelle internationale n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'était autour de l'usine qu'on s'est mis à inventer. Et donc, en fait, les métiers de conception, les métiers de design et de plus en plus de marketing sont en train de partir là où on produit. Et quand on voit une tentative de réindustrialisation, qui est un succès, hein, pour 1983, on voit bien que très très vite, il y a une logique de production. Il n'y a pas « d'abord je fais ma marque et ensuite j'envoie tout là-bas et puis après on verra ».
Thomas, donc 1083, vous êtes vendu en ligne et également auprès de revendeurs. Qui sont ces revendeurs? Voilà, quel est leur profil? Et est-ce que demain, on pourrait imaginer une internationalisation du modèle, de se dire, voilà, je lance 1083 en Espagne ou en Allemagne?
Alors sur la partie distribution, nous, notre problème, c'est qu'on a plus de demandes que de capacité de production. Et donc c'est grâce à ça qu'on crée des emplois. Tant qu'on a ce problème-là, ça veut dire qu'il faut qu'on produise plus que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on crée des usines, des ateliers, qu'on développe de l'emploi local. Donc pour l'instant, depuis 10 ans, on continue de créer des ateliers. Et l'équilibre qu'on cherche, c'est 50% de vente web sur 1083.fr et 50% de vente au magasin. Dans nos propres magasins, on en a 5. Rue Turenne à Paris, et puis à Lyon, Grenoble, Nantes et Romans. Et 130 revendeurs partout en France qu'on accepte au fur et à mesure qu'on a les capacités de les livrer. Et donc cet équilibre, on le chérit, parce qu'en fait, si on se disait, bah, tiens, le web, ça cartonne, on mise tout sur le web, ça va nous rendre fragiles du Covid si les magasins ferment. Et à l'inverse, si on se dit les magasins cartonnent, on investit sur les magasins et pas sur le web, et bien en fait, ça va nous rendre fragiles d'un autre virus, un virus informatique par exemple, qui viendrait faire chuter les ventes de nos sites internet et donc mettre à mal la filière qu'on construit. Donc on est vraiment très concentré sur ce 50-50, sur cet équilibre. Et après, pour la partie internationale, notre délire, c'est la proximité. Donc en fait, le but du jeu, c'est certainement pas d'acheter en France des jeans, enfin, puisqu'on ne veut plus acheter en France des jeans fabriqués au bout du monde, ben en fait, ça n'a pas de sens de faire travailler dans l'autre sens. Donc exporter des jeans, pour nous, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qui ferait sens, et ce sur quoi on est prêt à travailler, on a déjà pas mal de boulot avec le Made in France, ce serait de développer d'autres filières locales. Donc si demain on doit vendre des jeans 1083 aux États-Unis ou au Portugal ou en Éthiopie, que sais-je, bon, en fait, le concept de 1083, c'est de développer des filières locales, c'est-à-dire de développer des usines aux États-Unis, au Portugal ou en Éthiopie.
Ok. Peter, in the US, you have made a very interesting move last month because you have just signed a deal with Spark, which is a parent company of Forever 21 and other brands. And you plan to open corners in their physical stores. Why such a move? And do you plan a similar move in Europe, for instance?
I think that you make a very good point, which is that as retail expands and changes, there needs to be a balance between e-commerce and physical activations. We have, for a long time, focused on having pop-up stores and had 40 in 2022. We've had 3 in France so far this year. We'll have 2 more by the end of the year. And we see physical retail as a way to have our customers experience the brand, experience our vision, to see the quality of our products, to see how they're designed, to celebrate local designers like our Chienx designers who are located in France. All of these things, we're looking at a way to expand them through our partnership with Forever 21. And this will be a way in which we possibly have more permanent activation centers within stores. We haven't yet made the final decision about what that will look like, but we do see that there is an important balance between a digital experience for consumers and a physical experience for consumers, and we're looking at exploring where that balance lies. To your question about Europe and France, I do think that we are open to partnering with brands of all stripes, and we are open to learning from and engaging with any number of producers at any scale or size. Both who share our value of being a responsible business, but also who can meet our customers' tastes and expectations.
Okay. And last year, we also have seen several fashion retailers, like Boohoo and even Amazon, which have decided to charge for online returns, but to keep operating free in-store returns. Is it a move that an omnichannel strategy could allow at Shein?
So I think as we explore omnichannel, I think some of the benefits could be more efficient, less intensive returns. So these would lower the carbon impact of returns. I think another exciting opportunity is for recycling. So as we look to design new fabrics and design garments in new ways that are more recyclable, having an in-store footprint where our customers can engage directly with us on recycling programs could be exciting. I think really this is early days and we haven't decided exactly how we will engage, but I do think there are lots of opportunities, 2 of which you mentioned.
Okay. Je
suis étonné parce que sur votre site internet, on trouve dans les bas-fonds de votre site internet une partie RSE où tout est formidable. Franchement, j'étais inquiet pour le réchauffement climatique. Mais après avoir lu votre partie RSE, je me suis dit, on est sauvé. Au niveau social, c'est parfait. Au niveau environnemental, c'est parfait. Et là, vous dites qu'au niveau recyclage, ce serait bien de commencer à travailler sur le sujet. Mais sur votre site, vous indiquez que c'est 60% de vos matières premières qui sont recyclées. Alors du coup, je suis surpris de ne pas entendre 60% de votre bouche.
So we have a fabric standard called the Evolution by Design standard, and this is a fabric material that uses 30% post-consumer recycled material to manufacture our garments. What we're speaking about is the end of life. So when a garment has been purchased, already manufactured, and is now ready to be changed, we offer a retail exchange. It's called a peer-to-peer network. It's supplied in the United States. It will be coming to Europe very shortly. And this Shein Exchange is one way in which we do that. The second way is through this recycling program. We offer that at our pop-ups today, but we'd like to see it expand, and that could be one way in which physical retail could help us. But what we're speaking about is post-purchase recycling, not the manufacturing of the garments, which is what I think you were reading about in our ESG report.
On a petit délai de traduction dans l'oreillette, mais comme les auditeurs, vous le délai. Très bonne question. Merci, Thomas. So Peter, effectivement, you launched Shein Exchange 1 year ago in the US. As a fast fashion company, I mean, the core of your business model is to manufacture products that don't last long. So which brands do you sell in the exchange platform for secondhand? And how do you consider second life regarding Shein products in particular?
So I think first and foremost, our primary goal is to manufacture high quality garments that resonate with their customers. And I think the perception that our garments are disposable is false. We make high quality, affordable, and accessible clothing. In terms of the Shein Exchange in particular, it is a peer-to-peer resale exchange designed for Shein clothing exclusively. So customers who have purchased a Shein item, we call them pre-loved items, can use the Shein Exchange to sell it to other customers who may be interested in that garment. This program allows us to realize some efficiencies, and it allows our customers to engage with the platform in a very easy and direct way. We've seen very strong connections with our customers through this platform in the United States, and we have over 1 million users of it today in the U.S. It's accessible directly via the U.S. version of the app, and similar capabilities will be coming to Europe. And this is offered as a service. It's not a profit center for us. We don't plan to use it as a profit center. It's a tool to allow our customers to engage in circularity, which is something that we hold as a core value as a company.
Is it a profitable business?
Juste un commentaire là-dessus, parce que je crois qu'il y a, quand on compare des taux de retour, il faut voir aussi quelles sont les pratiques. Quand on a un vêtement à 5 euros, 6 euros, et que c'est compliqué, parce que j'ai été interviewé quelques clientes, jeunes clients de Shein, et il y a parfois une sorte de « bon, bah, je ne sais pas comment le rendre, ou, parce que ce n'est pas très évident ». Donc, quand ça coûte 5 euros, on jette. Donc, je pense que les taux de retour ne sont pas toujours bien identifiés par la marque, parce que à ce niveau-là de prix, s'il faut payer tout un tas de trucs, qu'il y a tout un process à faire, et ben vous avez un découragement. Alors, je ne sais pas s'il y a des clients ou des clientes dans la salle, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu auprès de gens de ma famille qui finit par m'avouer que je suis quand même un partisan du Made in France, m'avouer qu'ils en achetaient de temps en temps. Voilà. J'étais très triste, mais ça m'a quand même appris ce que je suis en train de vous dévoiler.
Qu'est-ce que, Laurent, on a la loi sur l'affichage environnemental là, qui se profile donc de façon optionnelle à partir de janvier 2024 et obligatoire janvier 2025 sous peine d'autres retards, mais en tout cas, voilà, en tout cas le programme actuel. Qu'est-ce que tu penses de cette législation?
Alors, sur l'affichage, j'y crois très peu parce qu'on voit très bien. Enfin, il y a suffisamment eu de reportages sur la fast fashion, sur Chine, sur d'autres, démentis, pas démentis, peu importe, mais qui créent le doute. Et on sait très bien que c'est un achat qui est moins vertueux, qu'il deviendra peut-être, hein, parce que j'ai bien noté que vous avez dit que vous envisagiez de relocaliser dans un certain nombre de pays, donc ça serait merveilleux, mais en attendant, ça n'est pas fait. Donc, je ne crois pas que les gens qui achètent, en tout cas que la plupart des gens qui achètent, ne soient pas au courant que ça pose problème. Et pourtant, ils le font. Donc je ne vois pas pourquoi le fait de mettre une étiquette qui dise « attention, on vous informe » va régler les choses. Alors c'est possible pour une partie, je pense, des consommateurs. Je trouve que c'est sain pour beaucoup d'autres acteurs, mais je ne suis pas certain que ça règle complètement le problème. Je pense qu'on a un problème de responsabilité, et de cohérence entre ce qu'on raconte dès qu'on a un micro pour dire qu'on est vertueux et de qu'est-ce qu'on fait au moment où, en face de son site internet, on compte ses sous et on achète ou pas quelque chose.
Oui, moi je voulais revenir sur ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord. S'il suffisait de lire « fumais-tu » pour s'arrêter de fumer, en fait, plus personne ne fumerait. Et ce n'est pas le cas. Donc en fait, tout ce qui est de l'ordre de l'individu, c'est normal de le mettre à la responsabilité du consommateur qui choisit ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais en fait, à la fin, avec toutes ces étiquettes, on s'y perd, ça fait trop de choix dont la plupart d'entre nous ont des conséquences trop lointaines. Fumer, c'est le cancer, c'est dans 30 ans. Donc c'est moins grave que si c'était dans 30 jours, si la proximité de la conséquence est immédiate. Et bien, la surconsommation, la fast fashion, c'est pareil. La conséquence est si lointaine que le consommateur, dans son magasin Romans-sur-Isère, en fait, il ne va pas appréhender ça de la manière la plus idéale. Et en réalité, si l'État, si la collectivité sait qu'il y a un truc qui est bien, un truc qui n'est pas bien, c'est son rôle de légiférer et de dire ça, on a le droit, ça, on n'a pas le droit. Je veux dire, dans la fast fashion, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. C'est bien gentil de faire attention au pouvoir d'achat des gens. Mais si la fast fashion faisait économiser des gens aux Français, ils ne feraient pas tous ces milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça vient des Français. Donc en fait, c'est juste qu'au lieu d'acheter, d'avoir le plaisir d'acheter un vêtement, eh ben, on a récompensé de plaisir le consommateur qui en a acheté 5. Donc il est 5 fois plus content parce qu'il a 5 fois le kiff d'avoir acheté. Mais ça nous coûte cher. Et ça nous coûte cher économiquement, ça nous coûte cher aussi en termes d'emploi, ça nous coûte cher aussi pour la santé. Moi, je compare la fast fashion à la fast food. La fast food, ils excitent les consommateurs, ils nous stimulent, ils créent le désir en mettant du sucre partout. Vous avez du sucre, un morceau de sucre dans un hamburger. C'est quand même dommage, on pensait manger de la viande. Mais on a du sucre dedans et c'est ce qui nous stimule notre désir. La fast fashion, ben, elle nous stimule par la nouveauté, par la promotion. Et donc, ben, on remplit le système à plaisir dont on a besoin, mais au lieu de le remplir de choses vertueuses, eh ben, on le remplit d'un monde qui surconsomme, qui surproduit, qui pille les réserves de la planète, qui concentre les emplois dans des endroits pas très riches et qui appauvrit les riches et qui asservit les pauvres. Et donc ce modèle-là, ben, si on se dit qu'il n'est pas terrible, ben, en tant que professionnel, en tant qu'État, on peut faire quelque chose. En tant que consommateur, on peut tous faire notre part, mais nos moyens sont très limités par rapport à ce que peuvent faire les entreprises ou décider de ne pas faire, et ce que devraient faire nos gouvernants pour saluer, dynamiser ce qui est bien et contraindre ce qui n'est pas bien. S'ils savent que ce n'est pas bien, l'État, au lieu de nous mettre une étiquette, il devrait l'interdire.
I think that one of the central premises of both of your arguments is that there is a virtuous cycle. And at Shein, we agree that there is virtue in fashion. What we see it as is a vehicle for self-expression. And if you can decouple the ability for individuals to self-express through their clothing at an affordable and economically accessible price point, but do so in a way that's responsible and sustainable, we think that is more of an appropriate solution. We also think that transparency in supply chains is an important component. We have 5,400 contract manufacturers. They're enabled through a digital supply chain that allows us to see where they are, to ensure that they're not using things like forced labor, improper materials, to conduct and monitor chemical testing of the products. All of these things can be enabled through technology. But I think that assigning virtue to a particular model that is solely focused on limiting consumption may alienate a portion of the population that can't afford higher price points, and B, limit opportunities for self-expression and individuality, which are also virtues. So I don't see that this is a singular virtue that you're adopting, in our view.
Non, mais, alors, moi j'entends votre point, et effectivement, si vous vendez, c'est parce qu'il y a des acheteurs. J'imagine, tu as parlé d'un peu de shoot, d'ego et de satisfaction quand on ouvre un paquet qu'on vient de recevoir. Et d'ailleurs, ça entretient par le système d'influenceurs, beaucoup sur TikTok, qui lui-même est un média bien contrôlé par la Chine. Donc tout ça est une boucle très efficace. Ça, d'un point de vue marketing, c'est nickel. Effectivement, ça ne contrevient pas aux réglementations, puisque les gens ont le droit d'acheter des vêtements sur Internet. Maintenant, dans l'histoire des interdits, des produits interdits, il y a eu un moment où c'était permis. À une époque, on pouvait acheter de l'opium. C'était parfaitement accepté. Il y a des endroits qui se disent qu'on peut légaliser tout type de drogue. C'est pas pour ça que c'est bon. Voilà. Donc c'est pas parce que des gens en veulent et que des gens en vendent que c'est quelque chose qui est sain pour les choses. Donc moi, je suis très spectateur là-dessus.
à chaque fois que je joue un journal, que j'allume la télé, que j'entends une conférence, on me dit qu'il y a une urgence climatique. Alors, soit c'est vrai, et il faut traiter le problème. Alors, est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on vous oblige à avoir un certain nombre de pratiques qui fait que la prochaine fois que vous venez, vous aurez la possibilité, même l'obligation de répondre aux questions qui sont posées.
Ça pourrait être bien.
Soit on continue à dire, en fait, il y a des failles, parce qu'en gros, il y a production dans des pays qui ne sont quand même pas des démocraties super, super transparentes, donc on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. On recevait il n'y a pas très longtemps à Arcachon, quelqu'un qui fabrique aussi des jeans, et qui est d'origine vietnamienne, qui est parti au Vietnam pour regarder à Ho Chi Minh Ville comment on produisait des jeans qu'il avait lui-même designés. Il a visité, parce qu'il était vietnamien, il a eu accès à des centres de production que vous et moi, on ne peut pas visiter, parce qu'on ne va pas nous amener dans ces endroits-là. Il est tombé en dépression, et je ne plaisante pas, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire du Made in France en sortant de ça. On ne se rend pas compte du mal qu'on fait. Donc, moi, l'argument qui est de dire jusqu'à maintenant, on fait des choses qui sont légales et on fait plaisir aux clients, oui, moi, je n'irai pas vous contredire sur ce point. Le point, et on parle de vertu, on parle de morale, on parle de trucs peut-être un petit peu conceptuels, mais c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce qu'on laisse faire des choses qui, certes, sont permises, mais détruisent la collectivité. Moi, je vous souhaite de relocaliser au plus vite possible parce que j'ai une conviction forte. C'est que bientôt, si ce n'est pas vous qui décidez de le faire, vous y serez obligé, ou vous ne pourrez plus vendre.
I have a last question, because our time is running out. Last question for Peter. How do you consider the European legislation to tax imported carbon?
So I think it's important to note that if there are...
I think it's a good legislation, or no?
So we don't comment on specific policies, but in general, if there is a change, we're excited to follow it. And I think our position as a company is that there is a climate emergency, that we have a role to play in addressing it along with other participants in the fashion industry. And we're looking forward to taking on that role and fully complying with any laws that come into effect.
But I
would just like to respond briefly. I think the analogy between our product and narcotics is a little unfair. We all wear clothing. We all wear clothing that's sourced from multiple locations. And despite our best efforts, there is no cotton production in France. You're sourcing your raw cotton another country. And those supply chains can be opaque and difficult to trace. So I think the notion that there is some sort of moralistic ban that can be approached and analogizing fashion to narcotics probably overstates the case. Now, it is important that there are changes, and there are important changes to fabrics and supply chains that we embrace and are working to advance as an industry. But I think that a total ban and a comparison to narcotics probably overstates the case, in our view.
Je suis sûr que vous allez prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça n'arrive pas, parce que je vous sais très efficace. Donc, voilà, c'est ce que je vous souhaite. Mais je suis sûr qu'il va y avoir des interdictions, notamment avec tout ce qui tourne autour du recyclage, puisque on a parlé de recyclage. Si c'est pour prendre des matières qu'on jette ici, qu'on met dans les bateaux et qu'on va recycler en Chine, ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire qu'il va falloir relocaliser, enfin, avoir un circuit de recyclage à moins de 1500 km, hein, pas 1083, mais presque. Et comme ça, ça veut dire qu'on aura une traçabilité bien plus importante. Et ça va tomber, c'est déjà dans les décrets, c'est en train d'arriver, donc forcément il y aura des adaptations à ce niveau-là.
Et puis, encore une fois, la question c'est comment on fait les choses. Alors, on produit du coton en France, en partie dans la Drôme et dans le Gers, et on le mélange avec du coton recyclé, justement pour décupler les romains de nos champs de coton, qui sont cultivés en agriculture raisonnée, donc sans pesticides, sans dopage, en quelque sorte, de la production des champs. Donc ça, c'est possible en France. Et après, au-delà, en fait, de la manière dont c'est fabriqué, le problème de fond de la fast fashion, c'est qu'en fait, on est sur une planète avec des ressources limitées, et on ne peut pas, en fait, demander aux gens de surconsommer, de surproduire à l'infini, avec ce niveau de ressources limitées. Et donc, même si vous faisiez tout bien, que c'était tout bio, que c'était tout parfait, en fait, si vous mettez du sucre sur un burger avec un burger tout bio, vous mettez du sucre dedans et vous incitez les gens à manger beaucoup, bah, ils vont être malades, ils vont être gros, ils vont avoir plein de problèmes de santé. Bah, la fast fashion, c'est malheureusement un petit peu pareil, c'est-à-dire que vous savez tellement donner envie, stimuler les consommateurs d'acheter vos vêtements, le plus possible, le plus régulièrement possible, que quand bien même ces vêtements seraient parfaits, seraient tous bio, etc., la surproduction qu'ils généreraient n'est pas tenable à l'échelle de notre planète. Et c'est là où la fast fashion, pour moi, a un vrai problème existentiel. Et on en parle d'autant plus facilement qu'aujourd'hui, il y a un acteur Chine qui est chinois, mais en fait, ce n'est pas le procès de Chine aujourd'hui. C'est juste la fast fashion en général engendre ça. Qu'elle s'appelle H&M, Zara ou d'autres marques à petit prix françaises, en fait, le problème de fond, c'est la surconsommation et la surproduction que génère cette capacité à stimuler autant de désirs chez les consommateurs et à le rendre si accessible tellement c'est pas cher. Et si on ne soigne pas ça, alors on sera hébété par ce système-là, on se fera plaisir par des consommations à faible valeur ajoutée. D'ailleurs, ça a tellement peu de sens, ces plaisirs de petits achats, qu'on les remplace immédiatement par d'autres plaisirs. Alors qu'un jean 1083, certes, il n'y a qu'une fois le plaisir de l'achat par rapport à 5 ou 10 jeans Chine. Mais le fait de découvrir la marque, de rencontrer les fabricants, de le porter, de le patiner, d'en parler autour de soi, c'est autant de désirs qu'on essaye de produire chez les consommateurs pour que finalement ce plaisir de l'achat soit dilué dans tout un tas de désirs. La différence entre nous, c'est que le seul désir que Chine et la fast fashion cherchent à stimuler, c'est votre plaisir de consommer. Est-ce que c'est comme ça qu'on va régler les défis du réchauffement climatique? Je ne suis pas sûr.
So I think that one of the misconceptions about our business is that we produce a lot of clothing. What we do is instead of focusing on supply, we focus exclusively on demand. And this means that using our digital supply chain, we're able to produce only between 1 to 200 copies of a particular garment SKU for the entire world. And the net effect of this is to dramatically reduce our excess inventory waste, our excess fabric wastes. So when you're talking about overproduction, that's really something that we feel we have something to contribute to these discussions about solutions. By dramatically lowering overproduction and virtually eliminating it from our supply chain, by focusing on demand exclusively, we're essentially a sell-through business. So we don't carry inventory, and we don't have this waste problem that I think you've associated with us.
Oh. J'entends cette volonté de produire à la demande grâce à votre supply chain, etc. Néanmoins, quand on produit à la demande, on n'a pas besoin de faire de promotion, puisqu'en fait, on n'a pas de surstock. Or, quand on regarde votre site internet, il n'y a que des promotions. Ça veut dire que soit ces promotions sont fausses, c'est-à-dire que vous faites croire que ça valait 20 et en fait ça vaut 12 pour stimuler la consommation. Donc, c'est-à-dire que vous vendez en promotion des articles que vous n'avez pas encore produits. Donc ça veut bien dire que vous stimulez la consommation, soit, en fait, vous avez plein de stocks et ces promotions sont réelles, et à ce moment-là, du coup, vous n'êtes pas en production à la demande, vous avez plein de stocks à écouler. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas cohérent, en fait, de dire d'un côté, je produis à la demande, et d'un autre, de voir votre site internet, 95% de l'offre est en promotion. Comment vous expliquez ce décalage entre ce que vous dites et votre offre avec un tel niveau de promotion?
So one of the tools that we use, as you do on your website as well, is audience engagement technologies. And these involve gamification. And we've seen through our global platform that these types of gamification tools are very exciting and welcomed by our customers. But you're right, we are a business. We are trying to sell products to our customers. But the way in which we're trying to sell them is to encourage them to tell us what they think they want to wear and then to produce in response to that measured demand. So I think as you look at the online experience for an online-only business, we do not have the ability to create a storefront experience. We have to engage with our customers through different immersive means, and these are the means that we've chosen. And they've been very successful for our business to date. But to your point, I think there are conversations that are important to have about how do you become a more sustainable brand. And we obviously have a lot to learn, and we're continuing to speak to stakeholders, and yourselves included, to learn how we can do better.
Okay. We didn't really hear your answer. As the third largest fashion retailer, to climate crisis with a world at plus 4 degrees and plus 10 degrees in some regions. So we believe that retailers also have a duty to commit and to give a concrete path to this, to tackle the climate change. But you told us that you didn't want to take questions from the audience. Can you make an exception for us today?
Sure, I'm happy to.
Yeah, oui, on va prendre les questions du public. Thank you.
Bonjour. J'imagine que tous les colis qui sont livrés en France le sont par... Hi, sir. I guess all the parcels you deliver every day in France come by plane?
It depends on the particular parcel. Most of our products are imported via airplane, that's correct. But some are also done via return and refulfillment from our return and refulfillment center in Poland. Some are also coming in by ocean freight, where they're distributed from our return and refulfillment center in Wrocław, Poland.
Meaning that you have various warehouses in Europe to dispatch the merchandise?
We do. We have one in Wrocław, Poland, and a second one in Italy.
Petite précision, j'ai regardé vos promesses RSE et sur vos promesses RSE, vous dites que vous limitez au minimum les trajets en avion pour les livraisons de vos commandes. Et du coup, je ne comprends pas trop votre réponse parce que là, j'avais cru comprendre que c'était la majorité que vous livrez en avion, ce que vous avez dit, et sur votre site internet, vous dites l'inverse.
So, in our ESG report, we identify our emissions in scopes 1, 2, and 3. And our air carrier emissions are in scope 3 and remain one of our largest sources of emissions. I don't know specifically what you're referring to, but the majority of our entries do come by air freight.
Je vous montrerai votre site internet.
I appreciate it. Thank you.
Est-ce qu'on a d'autres questions?
Bonjour, j'ai deux questions à vous poser. Un rapport de Greenpeace avait révélé que 15% des vêtements analysés de Chine étaient contaminés avec des contaminants à des hauteurs supérieures à la législation européenne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça et est-ce que désormais vous pouvez garantir que vous avez bien vérifié tous vos vêtements? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui Chine peut garantir que sa production ne repose absolument plus sur l'exploitation des populations ouïghours. Merci.
So we conduct over 300,000 chemical tests of our products and have a very long and sophisticated chemical safety requirement. That means that all of our suppliers are prohibited from using substances that are banned in countries like France, the United States, Canada, and really throughout the world. And our objective is to make high quality, safe, fashionable clothing. So we've invested countless amounts of material resources and human resources into making our products as safe as we possibly can. And we take that very seriously as a business. To your second question, we as a company have a zero tolerance policy for forced labor. In our code of conduct, we expressly prohibit the use of forced labor, child labor, or any other type of exploitative conditions. And we conduct thousands and thousands of supplier audits. In 2022, we did 2,800. We're on track for 3,600 in 2023 to make sure that our suppliers are living up to their obligations in the code of conduct. But we don't stop there. We also have no contract manufacturers in the Xinjiang region of China, and we conduct chemical tests of all of our cotton products to make sure that they are from approved origin countries. This includes Brazil, which sources about 67% of our cotton, the United States, which is another 22% of our cotton, and India and Australia, which make up the rest. And so our objective, and one of our highest values as a company, is to remain true to that zero tolerance policy.
One last question, une dernière question.
J'aimerais juste rebondir sur ce qu'il y a.
Alors, les questions, peut-être pas de dernière question.
De Merci. Exactement. Donc, désolé pour la dernière personne qui voulait poser une question, ça sera moi. Voilà. Non, mais elles sont très bien vos questions, mais en fait, elles sont limitées en sens parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui a du mal à répondre aux questions de façon précise. Encore une fois, je pense que c'est compliqué d'être à sa place et je ne voudrais pas l'être. Mais vous comprenez bien, Peter, que quand vous ne répondez pas à toutes les premières questions, quand il y a autant d'opacité, tout ce que vous nous garantissez à l'instant, c'est très compliqué pour nous de le croire. Donc il faudrait quand même ouvrir tout ça. On est au moment, et vous savez très bien vous en servir sur les médias sociaux, où tout le monde a quelque chose dans la poche, qui filme, qui communique, etc., etc. Donc dans ce niveau de transparence possible, ça commence à devenir très compliqué d'être aussi opaque. Et moi, je pense que les deux questions que vous avez posées, il y en a peut-être 1000 comme ça qu'il faudrait poser, ben, j'ai du mal à vous croire. Et vous n'aurez la possibilité de nous convaincre qu'en ouvrant les portes, qu'en garantissant ces pratiques, et qu'en intégrant un certain nombre de choses comme Thomas a pu les démontrer, simplement sur le coût de ce qu'on achète, quand on voit le prix d'un salaire décent, c'est pas possible, tu as 20 euros de confection pour un jean.
Oui, oui, j'ai regardé les jeans sur le catalogue Chine et je me dis, qu'est-ce que je peux avoir en France pour ce prix-là? Et en fait, je peux tissu. Non, le tissu, je peux tisser en France, en bio, tout ce qui respecte ce que vous dites en termes de respect des gens, respect de l'environnement, pour le produit fini acheté sur Chine, en promotion, en fait, j'ai un morceau de tissu en France. En respectant toutes les règles françaises, hein, juste ça.
Donc si vous avez une conscience écologique, si tout ce que vous faites en engueulant vos parents, dont je fais partie, c'est vrai, hein, si vous y tenez tant, la réponse est dans la question. Hein, c'était l'autre là qui disait la question, elle est vite répondue. Elle est vite répondue, la question. Donc il n'y a pas besoin de partir, de lire des rapports, etc. Vous constatez le prix de ce que vous avez, qu'est-ce que vous en faites après. Et je pense qu'on a, en attendant que les gouvernements, qui sont très lents, c'est très compliqué, etc., prennent des décisions comme celles que tu appelles, on a un pouvoir en tant que consommateur. Donc, regardez bien la provenance et regardez bien ce que vous financez comme modèle de société avec ça. Soit des gens qui fabriquent à côté de chez vous, dans d'autres pays où les gens sont bien traités, soit des choses où vous ne savez pas du tout et vous dites « Oh non, mais j'ai eu des réponses un peu vagues qui me rassurent. » Voilà, j'ai rien d'autre à dire.
Merci.
Merci beaucoup, merci Sophie, Peter, merci Thomas et merci Laurent. On peut les applaudir encore une fois très fort, s'il vous plaît. Thank you very much.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.